La porte n'a pas percé, Cécile. Elle me disait, je suis compromis pour ma taille, elle a jamais sa preuve. Alors elle dit, c'est très difficile pour une assez grande de trouver des partenaires, parce qu'ils sont plus petits, ils ne veulent pas jouer avec moi.
Bien, Henri Guillemin, je pense qu'il n'est pas besoin de vous présenter à nos téléspectateurs. Vos émissions très suivies à la télévision, à la radio. Vos livres qui se chiffrent par plusieurs dizaines, une quarantaine en tout cas. Vos conférences, un genre où vous êtes passé maître. Toute cette activité d'historien de la littérature et de la politique a fait de vous un homme connu, un homme dont les traits, dont les accents sont devenus familiers à un très large public. Mais si nous connaissons vos passions, vos aversions pour tel auteur, pour telle personnalité, il nous reste à vous connaître, vous. Et le propos de ce En direct avec Henri Guillemin, précisément, est de nous permettre de pénétrer plus avant dans votre intimité, de découvrir votre personnalité et la réalité de vos convictions. Et j'aimerais tout d'abord vous demander par quel cheminement vous êtes devenu Henri Guillemin, par quel cheminement vous êtes devenu critique littéraire, puisque c'est au fond là votre profession.
Oui, oui. Il faudrait remonter loin. Hein. Quand j'essaie de me rappeler mon enfance, je me rappelle très bien que vers 8 ou 9 ans, j'avais déjà décidé devant mes parents que je serais professeur. Je ne pensais pas du tout être critique, enfin, j'avais envie de faire des conférences. Je me rappelle que à ce moment-là, très passionné par des histoires d'Indiens, et dans la pause à manger de chez nous, on fermait les rideaux, je me mettais derrière les rideaux et je faisais payer 20 centimes à mes parents pour faire une conférence sur les Sioux. Alors c'est comme ça que j'ai commencé. Puis après, alors donc j'ai préparé l'école normale supérieure, je suis entré là en 23, après un premier échec, j'ai rencontré divers camarades, dont Sartre, qui est entré une année après moi, mais comme j'ai fait 4 ans, je suis resté lié avec Sartre, puis il y avait Pierre Ressinon.
Vous aviez de bons contacts avec
Sartre. Oui, alors vous savez, on ne pouvait pas deviner à ce moment-là que Sartre serait un grand type. Hein. Il était tout le temps lié, il était très lié avec Nizan. Et nous, les Normaliens, on disait, c'est Nizan qui va faire une grande carrière. Vous savez, c'est Nizan qui est parti le premier, hein, avec Aden Arabi, je crois, c'est son premier bouquin, et puis Nishengard, etc. Et Sartre apparaissait plutôt comme une doublure de Nizan. Puis il y avait Raymond Aron, qui est maintenant si important, puis il y avait Claire Ressinon, il y avait Jean Guiton, enfin, il y avait une bande de gens. Bon, alors c'est là, à l'école normale, que je prépare l'agrégation des lettres, je me suis décidé, donc d'une manière définitive, à choisir la carrière de professeur de lettres. Maintenant, comment est-ce que je suis devenu critique?
C'est une tradition de famille
Pas du tout, absolument pas. Non, mon père était un agent voyer, c'est-à-dire, ça se dit plus aujourd'hui, je ne sais pas quel nom ça porte, l'agent voyer. Vous savez, il s'occupait des calibres ou en salle d'empirement. C'était une famille très pauvre. Quand mon père s'est marié, c'était en 1892, je crois, il gagnait, je le sais, 100 francs par mois. J'ai été élevé dans une assez grande pauvreté et je ne le regrette pas du tout. Bon, alors mon père était très content que je sois un fonctionnaire parce qu'il paraissait stable, c'est une situation sans danger, quoi, d'être fonctionnaire.
Mais vous permettez, vous êtes devenu boursier pour pouvoir faire...
Oui. Enfin, quand j'ai préparé l'école normale, c'était à Lyon, j'étais en cagne, c'est le mot qu'on emploie, la cagne. Hein. Et bien, ma cagne a été payée par l'État parce que les fils de fonctionnaires étaient presque tous boursiers. Et puis, dès que j'ai été nommé à l'école normale supérieure, j'étais plus à la charge de mes parents, puisque l'école normale, c'est un endroit où on est logé et nourri gratuitement. Hein. Bon, ben, j'ai échoué à l'agrégation la première fois, c'est arrivé aussi à ça. Et puis, en 1927, ça y est, en 27, ben, je suis arrivé à la grève, ça y était, alors j'étais sur rail. Ben, maintenant, comment est-ce que de professeur, j'ai été professeur longtemps dans l'enseignement secondaire, de professeur, je suis devenu critique, ben, voilà le chemin, en somme. J'avais l'intention d'arriver à l'enseignement supérieur. Vous savez, quand on est prof de lycée, on se dit, si on peut arriver à une faculté, c'est bien plus intéressant. D'abord parce qu'on a moins d'heures de travail, et puis parce qu'on fait de la recherche personnelle. Ben, donc, je fasse une thèse. Alors, il y a deux manières de considérer la thèse, ou bien simplement comme l'échelon, le marchepied, qui vous permettra d'arriver à un niveau supérieur, ou bien parce qu'on est passionné par un sujet. Ben, je dois vous avouer que je n'étais pas passionné par mon sujet, je ne savais pas trop quoi faire, et puis c'est Daniel Mornay, ça vous dit rien, Daniel Mornay, c'était l'élève de Lanson. Peut-être que ça vous dit mieux, Lanson, vous savez, c'est le type des fiches, c'est un famille de l'histoire de la littérature française. C'est Mornay qui était mon directeur de thèse, et qui m'a dit lui-même, écoutez, d'où êtes-vous? Alors, je dis, Macron. Elle m'a dit, Lamartine. Bon, ben, pourquoi ne feriez-vous pas une thèse sur Lamartine? C'est donc pas moi qui choisis, hein. Bien que je sois ma collègue, que j'aurais pu aller directement vers Lamartine, c'est ce Mornay de la Sorbonne qui m'a orienté. Alors voilà ce qui m'est arrivé, c'est que je me suis passionné pour ma thèse, j'ai trouvé des documents, j'ai eu de la chance, j'ai trouvé des inédits. Et puis je me suis aperçu que l'image qu'on m'avait donnée dans mes classes de Lamartine ne correspondait, mais vraiment absolument pas, au bonhomme que je découvrais. Alors c'est la première fois que je suis entré dans ce que l'on appelle cette démystification, on prétend toujours que je fais ça, mais simplement parce que j'avais été stupéfié de voir la distance qui existait entre le vrai bonhomme que j'arrivais à découvrir et l'image qu'on m'avait donnée de lui. Alors après que j'ai eu fini ma thèse, je me suis dit, mais ce qui s'est passé pour Lamartine, j'ai bien l'impression que ça peut se passer pour d'autres, et qu'on nous a mis dans la tête des images convenues. Alors je suis parti, ça vraiment par option personnelle, du côté de Jean-Jacques Rousseau, parce qu'il m'a toujours intéressé. Et je me suis aperçu que ça aussi, il y avait des choses à dire. Alors c'était ça mon départ, hein. Un départ presque, je sais pas, par hasard, mais qui m'a lancé dans une voie où où je sentais que c'était ma vocation, d'aller substituer aux légendes convenues la vérité.
Justement, avant la guerre, vous étiez enseignant, mais vous n'avez pas toujours été enseignant. Vous avez suivi encore la carrière diplomatique.
Ah, ben oui, ben voilà ce qui s'est passé. Je vais vous raconter. Hein. Je suis arrivé dans l'enseignement supérieur en 36. Mon premier poste a été local, c'était bien intéressant. J'étais envoyé comme fonctionnaire égyptien, mais appuyé par le gouvernement français. Je m'appelais à ce moment-là service des offres à l'étranger, c'est devenu des affaires culturelles. J'ai enseigné 2 ans au Caire, j'ai revenu à Bordeaux, où on m'offrait une place à l'université de Bordeaux, et comme ma femme est bordelaise, j'étais tout content d'être là. Et puis la guerre est arrivée à ce moment-là, quand j'étais porte-parole à Bordeaux, et il a fallu que je mette les voiles parce que j'ai été dénoncé par le journal de Bravia, qui s'appelait Je suis partout, et qui avait imprimé ses mots, enfin, divin gaulliste. Et comme j'étais à Bordeaux sous l'occupation allemande, j'avais qu'une chose à faire, c'est m'en aller. Je ne pouvais pas m'en aller sans autorisation. Alors c'était, je me rappelle, le 14 juillet 1942. Ayant vu ça dans le journal, j'ai demandé une audience au recteur. Le recteur, c'est celui qui dirait, l'académie. Bien sûr, le 14 juillet, il m'a reçu, parce que j'avais dit c'est grave. Et je me rappelle encore ce type, c'était l'hirondelle. Je lui apporte ça, je lui dis, monsieur le recteur, voulez-vous voir? Alors il me dit, hein, un recteur, il me dit une seule chose, vous foutez le temps.
Mais pourquoi est-ce que Brasillac vous avez dénoncé?
Ah, parce que j'étais gaulliste, enfin, positivement, j'étais du côté de De Gaulle. Je ne faisais rien d'extraordinaire, hein, vous savez, je n'ai pas pris beaucoup de risques. Hein. Mais mes étudiants, ceux qui voulaient passer de l'autre côté, qui voulaient aller en Espagne et rejoindre De Gaulle, j'avais des filières, j'avais 2 moyens de les faire passer. Alors c'est tout ce que je faisais, les types savaient qu'ils pouvaient me faire confiance, et pendant qu'ils me disaient je veux m'en aller, je disais ben allez par là et par là. C'est comme ça que je faisais partie. Bon. Alors voilà, c'est tout le temps, puisque c'est ce que m'avait dit mon chef. Je suis venu ici en Suisse, oui, comme réfugié politique. Hein. J'étais au bénéfice d'une autorisation de 6 mois de séjour, renouvelable. Puis voilà, la libération s'est arrivée. Alors, 2 possibilités.
Vous avez atterri où en
À Neuchâtel. Pourquoi Neuchâtel? Parce que je vous racontais tout à l'heure.
Où nous nous trouvons maintenant.
Mais oui, exactement, dans cette même maison. Hein. Depuis 29 ans, nous sommes là, dans cette maison du 58 faubourg de l'Hôpital. Pourquoi Neuchâtel? Parce que, comme je vous le disais il y a un instant, je travaillais sur Jean-Jacques Rousseau. Et que ici, comme vous savez, il y a une grande part des archives Rousseau. À Genève, il y a les archives purement littéraires, enfin, il y a des manuscrits, et ici, c'est la correspondance. Et ce qui m'intéressait, on y viendra, c'est de parler de l'homme, et je voulais me renseigner sur un certain moment de la vie de Jean-Jacques Rousseau. Alors, je suis venu là pour pas travailler sur Rousseau. Bon. Alors, voilà la
guerre.
Alors, justement, c'est ça, hein. En 45, quand la libération est intervenue en France, j'avais 2 possibilités. Ou bien, on me rendait ma chaire de Bordeaux, on m'avait révoqué à cause de la chance, c'est naturel. Ou bien alors, on venait de créer à l'ambassade de France à Berne un poste d'allergie culturelle qui n'existait pas encore. Vous savez que les postes d'allergie culturelle, c'est les postes arrière à la guerre. Alors comme j'avais 2 ans en Suisse, j'avais fait 4 conférences, je connaissais un peu le milieu, l'ambassade de France, c'est M. Opinot, m'a contacté pendant 2 journées et m'a dit que ça vous ferait plaisir d'avoir l'allergie culturelle. Alors j'ai balancé, je me suis dit, est-ce que je rentre à Bordeaux pour prendre mon fonction de prof, ou bien est-ce que je suis attaché culturel, et j'ai cédé pour ça parce que c'était nouveau pour moi, puis il y avait un peu le prestige du. Mais diplomatique, quoi, je me suis dit que ça va être intéressant. Alors je suis resté 17 ans. J'étais pas un vrai diplomate, mais pas j'étais prêté, comme on dit administrativement, détaché. Hein. Je faisais par exemple le versement de pension à l'éducation nationale. Et je travaillais aux affaires étrangères. J'étais rétribué pas aux affaires étrangères, mais dépendant toujours de l'éducation nationale.
Mais en Neuchâtel.
Ben pourquoi je suis resté?
Justement, qu'est-ce que vous pensez de Neuchâtel il y a si longtemps où j'habitais?
J'aime bien Neuchâtel. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est une ville calme et tranquille. Et plus j'ai vu, plus j'ai envie de calme. C'est une ville pas très industrielle, pas bruyante. Il y a une grande bibliothèque qui n'est pas visible. Il y a 5 cinémas qui est indispensable à mon hygiène personnelle. Et puis, nous avons des raisons familiales de rester ici. Ma fille est mariée près de Neuchâtel. Mon second fils a fait toutes ses études à l'université de Neuchâtel. Il est ingénieur et docteur chimiste de l'université de Neuchâtel. Nous sommes enracinés là. Jamais, dans aucun endroit, nous sommes restés si longtemps. Hein. J'ai beaucoup erré, j'ai été dans un tas de postes. Mais il y a presque 30 ans qu'on est là, et j'ai pas envie de m'en aller.
Mais vous vous sentez assimilé, comme on dit?
Assimilé, enfin, je me sens d'abord français, c'est sûr. Mais ici, c'est tout de même ma ville. Parce que notre Michel, dont je viens de vous parler, qui est le docteur en chimie, il est né ici. Alors on est tout de même à Neuchâtelois, oui. Et je dois dire que j'ai été accueilli ici avec beaucoup, beaucoup de gentillesse. En fait, Je suis attaché à ce patelin.
Et vous avez des liens avec cette ville de Neuchâtel?
Ben, surtout, ceux qui ont été les plus gentils avec moi quand je suis arrivé, c'était M. Beauvais, qui est mort maintenant, qui est le directeur de la bibliothèque, qui m'a beaucoup aidé dans mes recherches. Et puis, Charles Guyot, qui est professeur de littérature, et qui a été d'une générosité extraordinaire pour nous. Enfin, on est arrivé là sans argent, et il nous a pris dans sa maison de Bouddhilly, enfin, il a été très chic. Enfin, nous avons des amis ici, enfin, j'y suis attaché sentimentalement aussi.
Et la Suisse, il y a plus de 29 ans, vous êtes dans ce pays. Comment vous jugez la Suisse? Comment elle apparaît ce pays?
J'ai pas envie de discuter.
Comme Victor Hugo, que vous connaissez bien.
Oh non, non, c'est pas simplement la Suisse très savage, non, c'est pas ça. Non, écoutez, je ne peux pas me permettre de juger votre pays. Alors, je peux vous dire simplement que c'est évidemment un pays super capitaliste, mais dans les capitalistes intelligents. En ce sens que, on n'a pas permis qu'il y ait en Suisse ces misères qui existent en France, en Italie, en Espagne. Alors, c'est pour ça que vous êtes délivré d'un parti communiste, parce que vous n'avez pas de gens véritablement malheureux. Alors, c'est un sens que c'est un mon chapeau, cette organisation suisse qui a été intelligente, habile, et qui ne laisse pas apparaître des misères qui susciteraient des colères de révolution.
Et vous aimeriez être suisse?
Je préfère être français.
Mais vous avez des liens avec le monde littéraire, roman?
Oui, oui, c'est vrai. D'abord, il faut que je vous dise, il y a un titre qui est vraiment épatant pour moi et que j'admire, non seulement à cause de ce qu'il a fait pour moi, mais parce que c'est un travail extraordinaire, c'est Marcel Raymond. J'ai souvent dit, et je suis content de le dire publiquement, que sa place était à la Sorbonne, en fait, il avait été français, c'est un des plus grands professeurs que je connaisse, comme critique littéraire. Ça pèse, ça doit être surréaliste, mais c'est une chose considérable. Alors il y a lui, dans lequel j'étais mon château, puis j'avais Béguin, j'aimais bien, parce qu'il était à Bâle, puis il a été ensuite le directeur d'Esprit. Et
Albert,
maintenant,
Albert
Béguin, vous savez, il est mort en 56, je crois, 56, oui. Et puis alors dans la jeune littérature suisse, je connaissais un petit peu Rami, j'étais reçu deux fois chez lui, mais dans la jeune littérature suisse, il y a des choses qui m'intéressent, par exemple Georges Aldap, et puis je lui ai dans le dernier bouquin, Le Rideau Noir, je trouve ça très remarquable. Donc, dans ce pays aussi, du point de vue intellectuel, j'ai des satisfactions. Je ne connais pas de Renat, on est Neuchâtelois tous les deux, mais je parle difficilement en français, je lui ai parlé une ou deux fois, conversation difficile, si bien que je ne le connais guère.
En fait, vous êtes tout de même coupé de Paris, non? Et c'est par le curieux, pour un critique littéraire, de vivre ainsi à l'étranger, vous êtes un cas unique, non?
Peut-être, oui, je me rappelle, il y a Gérard Boer, celui qui signait Guermantes, hein, Gérard Boer français, qui était dans Figaro. Qui était réfugié comme moi en Suisse, et qui m'aimait bien. Il me disait toujours, dès la fin de la guerre, vous venez à Paris, on s'occupe de vous. Mourias, qui m'aimait bien aussi, me disait, il faut venir à Paris, il y a cela qu'on fait une carrière. Mais, croyez-moi, je ne veux pas faire de malin, mais je n'avais pas envie de faire une carrière. Vous voyez, ça ne m'intéressait pas du tout de me mêler au monde littéraire parisien. J'ai jamais, c'est une chance, j'ai jamais rien convoité, j'ai jamais eu envie d'un prix, ni d'un fauteuil à l'Académie, au contraire, ça m'aurait épouvanté. Alors je suis très tranquille dans mon coin parce que je ne désire pas faire de bruit, je fais mon petit travail et je suis coupé de Paris si vous voulez, j'y allais beaucoup pour mes recherches aux archives nationales ou à la musique nationale, mais pas du tout dans le milieu littéraire. Ça, je suis chez Gallimard depuis 20 ans. Et bien, chez Gallimard, ils font leur le cocktail Gallimard tous les ans, j'y suis jamais allé. Et je n'ai pas envie, ça ne m'intéresse pas.
Et vous me rendez justement à ce que vous appelez votre petit travail, donc à votre travail de critique. Comment en fait vous définissez le critique littéraire, la critique littéraire?
Oui. C'est une grosse question, mais je vais vous expliquer. Qu'est-ce que c'est un livre, un ouvrage littéraire? Pour moi, c'est deux choses. C'est d'abord une réussite d'art, parce qu'un livre, il est intéressant, c'est si artistiquement, esthétiquement, il est beau. Hein, c'est une réussite d'art. Et deuxièmement, c'est une banalité, je la répète tout le temps, et j'y tiens beaucoup. Un livre, c'est toujours une déposition, toujours un témoignage sur la vie. Prenez n'importe quoi, prenez aussi bien du Rimbaud que des Misérables, c'est un type qui me dit, voilà comment je vois le problème, voilà ce qui me semble être la vie. Alors je veux à la fois faire une critique esthétique du bouquin, c'est pas ma spécialité, je l'ai fait une fois dans ma vie, dans mon bouquin sur Claudel et son art d'écrire, c'est-à-dire prendre l'œuvre uniquement du point de vue esthétique. Et ce qui m'intéresse, c'est l'autre aspect de l'œuvre, c'est-à-dire le témoignage humain, la déposition. Alors c'est en ce sens que je me passionne pour les œuvres et pour l'homme aussi, parce que je veux savoir ce que Victor Hugo, par exemple, je sais pas, ou Benjamin Constant dans Adolphe, nous dit sur des problèmes comme celui de l'amour, sur des problèmes politiques comme dans Les Misérables, je veux savoir ce qu'ils en nous disent sur des problèmes qui nous concernent tous. Je me reprends vers la lutte. En fait, qu'est-ce qu'un grand écrivain? C'est exactement un type comme nous, comme vous, comme moi, seulement qui a plus de sensibilité, d'une part, et qui a un don d'expression que nous n'avons pas. Mais le grand écrivain, il est dans tout comme nous. Il est confronté au même problème que nous. Il est en ligne, quoi, face aux problèmes de l'argent, de la sexualité, de la politique, de la religion. Alors ce type, qui a écrit une chose très importante, qui a donc un don particulier, ça m'intéresse énormément de savoir ce qu'il nous dit sur la vie. Alors je regarde toujours l'œuvre littéraire dans cet éclairage-là. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle s'y révèle sur ce qui est capital? C'est les problèmes de la vie.
Voilà. Comment choisissez-vous vos personnages, vos auteurs? En vertu de quels critères?
Je vais vous dire, quelquefois par hasard, hein. Je vais vous en donner deux exemples. Dans mes 30 bouquins, aussi, vous en avez compté une quarantaine, c'est vrai, mais il y a des livres qui sont des publications d'inédits, donc c'est pas vraiment de moi, quoi. Dans les livres qui sont de moi, je vous indiquer deux qui sont absolument sortis au hasard, par hasard. C'est mon premier livre, Benjamin Constant, mon livre, qui s'appelle Benjamin Constant Muscadin. J'étais en train, aux Archives Nationales, de faire une recherche d'ordre historique. Et puis tout à coup, dans un dossier de Seine-et-Oise, j'ai trouvé, et vraiment c'est perdu dans un fouillis, hein, j'ai trouvé une petite feuille de papier jaune, très nettement écrite, signée Benjamin Constant, et c'était une dénonciation de Benjamin Constant, qui avait une propriété à Lisard sur Seine-et-Oise, qui s'adressait au ministre de la Police, et dans le coin il y avait, pour vous seul, ça s'appelait Sostin, ministre de la Police, et il dénonçait un curé qui le gênait pour ses entreprises électorales. Je me suis dit, mais c'est énorme, enfin, ça se passe sous au moment du directoire, avant que le Quai d'Orsay, une histoire assez dramatique. Je me suis dit, mais il y a un sujet, enfin, qu'est-ce qui se passe, Benjamin Constant? Alors je suis parti sur Benjamin Constant à cause de cette découverte absolument au hasard. Deuxièmement, quand j'ai parlé sur Vigny, je me suis dit qu'on m'a beaucoup reproché, qui s'appelait Vigny, homme d'ordre et poète, parce que j'avais reçu de Genève une personne qui voulait vendre des manuscrits à la France. J'étais attaché culturel. Elle voulait passer par l'intermédiaire de l'ambassade de France, c'est normal, pour vendre ses manuscrits à la Bibliothèque nationale. J'ai été voir ses manuscrits pour savoir l'intérêt qu'ils avaient. Et là, j'ai trouvé des documents à Alfred de Vigny, très extraordinaires, enfin, j'ai m'en fait sursauter. C'était des notes que Vigny prenait personnellement pour ses conversations avec le préfet de la Charente. C'était le lendemain du coup d'État, du 2 décembre, oui, c'est ça. Et il invitait les gens à arrêter. Il disait, il faut arrêter un tel parce qu'il pense mal. Il y a un peintre là qui a de très mauvaises fréquentations. Il y a un juge de paix, ça m'a paru énorme. Il y a un juge de paix qu'il faut arrêter parce qu'il conseille aux jeunes filles de se pas se marier à l'église. C'est d'autant plus admirable que Vigny était un incroyant. Bon. Alors je me suis dit, mais c'est là. Ah, puis il y avait aussi qu'il faut envoyer des agents en civil à Angoulême, qui se font pas reconnaître et qui écoutent la population. Je me suis dit, c'est incroyable, Vigny éducateur de police. Alors je suis parti là-dessus, et avec ces documents qui m'avaient mis sous les yeux, j'ai fait mon bouquin. Bon, alors deux livres par hasard. Mais les autres bouquins, c'était toujours une option personnelle, je veux dire, un après.
Bonjour. Hein, pourquoi vous choisissez seulement des personnages du passé, pas des personnages du présent?
Ah, parce qu'on ne les connaît pas. On ne connaît pas les êtres vivants. On ne connaît un petit peu les morts, et qu'avec une assez grande distance. J'aurais un bouquin formidable à faire sur De Gaulle, certainement. Eh bien, il ne sera pas possible d'avoir une centaine d'années.
Pourquoi vous l'avez pas fait quand même? Il y en a eu des bouquins pour De Gaulle?
Non, mais je ne peux pas, parce que je sentirais très bien que je ne sais pas les choses capitales. Tenez-moi, vous savez bien que ça m'intéresse beaucoup les choses religieuses. Eh bien, je ne sais pas encore aujourd'hui si De Gaulle était chrétien ou pas. J'ai des témoignages contradictoires, je n'ai pas de notes là-dessus. Donc, je ne sais rien sur De Gaulle. Alors, je ne peux pas parler sur un homme trop près. On ne commence à connaître quelqu'un que lorsque des correspondances secrètes sortent. Claudel lui-même est assez près, alors j'ai fait un bouquin sur Claudel et je me suis tué sur une chose capitale dans sa vie, c'est-à-dire sa liaison de 1900-1904. Parce que c'est encore pas le moment de le dire. Il faut du temps.
Il n'y a pas un réflexe de prudence chez vous?
Ben si, il y a aussi ça. Et puis il y a aussi l'idée qu'il ne faut pas blesser les vivants, c'est-à-dire la femme, les enfants. Comment les jeunes signent à la place de ces gosses? Moi, je sais que mon livre aura déplu beaucoup des enfants Claudel. Et je me suis dit, si racontait sur mon père, les choses que moi, son fils, je ne savais pas, ça m'aurait blessé. Alors je me suis dit que j'avais bien raison de me taire sur cette question-là. Il faut même penser que quand on écrit quelque chose, on peut atteindre les gens à qui on n'a pas le droit de faire du mal. Alors quand vous parlez de prudence, c'est ça la prudence. C'est pas les coups que je pense avoir, je suis habitué, je sais, je suis enlevé. Mais je veux pas écrire des choses dont j'aurais honte parce que j'aurais fait de la peine à quelqu'un, justement.
Ah, mais ce seront des personnages publics.
Et les enfants, et sa famille. Hein. Je suis en train de faire un bouquin sur Peggy maintenant, mais je suis aussi gêné parce qu'il y a des enfants de Peggy qui vivent. Il y a des enfants, je dis, ben, je ne sais pas si je dirais tout ce que je voudrais dire. Je suis retenu par ça.
On parle parfois d'un Guillemin destructeur qui ne s'attaque qu'aux tabous et qu'aux valeurs reconnues.
Oui, mais ça m'exaspère. En fait, quand on dit Guillemin, c'est un démolisseur. Sur les 30 bouquins dont vous parliez, j'en ai fait deux, mettons trois, si vous voulez, qui sont des bouquins hostiles. Et j'en ai fait 25 qui sont pour défendre les gens. Pour dire, par exemple, ben, Victor Hugo n'était pas l'indécis qu'on a dit, il était très intelligent. Pour dire, Zola, c'est pas le pornographe qu'on nous a raconté. C'est au contraire un type très, très pur et très noble. Pour dire, Rousseau, on m'a fait croire qu'il était victime d'un délire obsidional, quand il était un fou. Il a été un peu détraqué à la fin de sa vie, parce qu'il a été traqué. Lamartine, c'est pas un imbécile, c'est pas un féminin, c'est pas un languide, c'est pas un homme viril. J'ai passé mon temps à défendre des gens. Et maintenant, la réputation est faite, Villeneuve, c'est le destructeur, c'est le type. Évidemment, j'ai apporté de l'eau à ce moulin quand j'ai fait un bouquin sur Napoléon qui était violemment destructeur. Mais c'est un cas particulier.
Oui, nous y verrons ça tout à l'heure.
Bon, ah bah,
enfin, vous avez utilisé, au début de cette émission, vous avez pu utiliser le terme de démystification.
Démystification, oui, ça c'est
alors, d'où vient ce besoin?
Parce que j'ai été furieux en grandissant de m'apercevoir qu'on m'avait tellement mis dans la tête, quand j'étais gosse, des idées fausses. Et pas seulement sur les écrivains, ça c'est moins grave.
L'école ou vos parents?
Non, pas seulement mes parents. Ils n'ont parlé, mon père n'était pas bien cultivé, alors on parlait pas.
Donc vous avez l'école, l'enseignement.
Oui, l'enseignement. Et en plus, je sors d'enseignement laïque, et je suis sûr que si je sortais de l'enseignement religieux, ça serait encore bien pire. J'ai regardé des manuels d'enseignement religieux, d'enseignement d'histoire, quand j'étais gamin, c'est ce qu'on apprenait dans les écoles de curé, mais c'est inimaginable, comme mensonge. Et bien ça m'a rendu fou furieux, c'est vrai. Alors je me suis déchaîné contre les gens qui vous montent sur la cervelle. C'est pas une expression de moi, c'est Victor Hugo. Il dit, on peut me monter sur le dos, car les gens plus forts que moi ne me montrent jamais sur la cervelle. Alors le fond de mon travail, c'est ça, c'est me battre contre les idées fausses qu'on m'a mis dans la tête. Et ils courent partout, ces idées fausses, surtout en histoire. Quand je regarde, je vais pas donner de nom propre, mais les gens regardent les fameuses revues historiques qui ont une grande clientèle aujourd'hui, il y en a plusieurs. Et quand je regarde ce qu'elles disent, ces revues, mais c'est exactement monstrueux, parce qu'il y a une histoire de bonne compagnie, c'est une histoire convenable, une histoire officielle. Celle dont Simone Weil disait, l'histoire officielle, c'est l'histoire racontée par les assassins. Eh bien, je voudrais essayer de dire aux gens, attention, on vous ment. C'est peut-être pour ça que je parle de plus en plus à l'histoire.
Alors, cette œuvre de démystification, comment la menez-vous? Comment travaillez-vous?
Avec des documents, avant tout avec des documents. Hein. C'est bien qu'on me reproche de mal interpréter les documents, c'est une question d'interprétation. Quand je pars dans une histoire, dans une étude sur quelqu'un, je vais à la base, c'est-à-dire quels sont les documents de base. Qu'est-ce qu'on connaît, qu'est-ce qu'on a comme source d'information. C'est pour ça que j'ai passé des tas d'heures dans ma vie, soit à la nationale, soit aux archives nationales, ne voyant personne à Paris, mais courant à ces deux endroits, pour avoir sous les yeux les documents de base. Quand j'ai fait mes études à la guerre 70, j'ai eu aussi un document qui n'était pas un manuscrit, celui-là. Mais Julien Quint, administrateur de la nationale, m'a dit après, pardon de dire ça, m'a dit, vous avez une idée de génie, non, c'est une chance. Il y avait eu, après la guerre 70, une commission d'enquête, une commission parlementaire d'enquête, où les gens qui déposaient, et tous ceux qui avaient eu un rôle dans la guerre avaient déposé, étaient convaincus que ça ne serait pas publié. Et en 1975, on leur a fait le tour invraisemblable de publier ces dépositions. Il y a 4 volumes, les 2 volumes, une quarto. Vous n'imaginez pas ce qu'on trouve là-dedans. Ces gens qui parlent entre eux, qui se déboutonnent, qui racontent leurs histoires, disent des choses inouïes sur cette guerre. Alors quand j'ai essayé de montrer que la guerre 70, vu le point de vue de la politique intérieure, préparait forcément l'explosion de la commune, tous mes documents venaient de ces dépositions dans la commission d'enquête. Donc je répète, les documents. Il faut partir du document. C'est pour ça que je me crois, pardonnez-moi, mais pas assez invulnérable, parce que ça, comme anglais, je dis, mais j'ai toujours une pièce, j'ai toujours un texte à apporter. On peut critiquer, on peut dire, mais vous l'interprétez de telle et telle façon. Et je demande aux gens de lire le texte et de voir si c'est moi ou eux qui ont raison.
Justement, si vous avez le sentiment parfois que vous interprétez un document,
je peux.
Vous avez des options personnelles.
Ça, je sens quelquefois que. Par exemple, quand j'ai fait mon étude sur l'arrière-pensée de Jaurès, j'ai eu une critique sévère de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Madeleine Robert-Rioux, qui est du Parti communiste, que je ne suis pas, et qui m'a dit, mais vous avez tiré Jaurès à vous, en ce sens que les textes de Jaurès que vous apportez, vous les interprétez dans le sens qui est le vôtre, c'est-à-dire vous tirez des avis du christianisme. Avez-vous le droit? Quand j'ai relu ces textes, je me suis dit, il est bien possible, en effet, que j'y apporte ma note personnelle. C'est difficile d'éviter ça, vous comprenez? Je fais ce que je peux, hein, je suis un alerte. Je me dis moi-même, attention mon Dieu, tu as trop envie de lui servir ça. Il est bien possible que j'essaie de... Et puis j'ai fait des sottises, hein, j'en reconnais. J'ai envie dans mon prochain bouquin de faire un sottise des guillemets, je connais au moins 4 grosses erreurs que j'ai commises dans mes bouquins. 4 grosses erreurs.
Une.
Vous en voulez une?
Oui.
Eh bien j'en ai là, il n'y a pas longtemps. Hein. Je raconte ceci. Au moment où il y a le pape de Reims, qui était donc en juillet 1429, on est allé chercher la Sainte Ampoule, vous savez, c'est la Sainte Ampoule qui avait servi pour Clovis, etc., à Saint-Denis. Alors j'écris bêtement dans mon bouquin, matériellement, il n'y avait pas la possibilité d'aller à Saint-Denis, étant donné que Saint-Denis était occupé par les Anglo-Bourguignons. J'avais confondu deux Saint-Denis. Il y a un Saint-Denis qui est à côté de Reims, et c'est là qu'on est allé chercher l'ampoule. Et moi, j'ai bien blâté là-dessus, alors que c'était un contresens. J'ai fait cette erreur-là. J'en ai fait d'autres.
Vous semblez attacher autant d'importance à l'examen de la vie, de l'auteur ou du personnage, quel examen de cette œuvre.
Oui.
Pourquoi?
Et ça, voilà, tout à l'heure, j'explique la parole à ça. L'œuvre, c'est deux choses, hein, j'ai dit, c'est mieux, esthétique d'une part, et une déposition. Alors, Saint-Incipe nous a donné sa vue du monde, les Claude Claudel, par exemple. Je voudrais bien savoir si la vie personnelle de cet individu vérifie ou contredit ce qu'il nous a raconté dans son œuvre. Je compare l'œuvre et la vie. Ça me paraît extrêmement important, et en particulier, ça me paraît indispensable lorsque le type a dit « je ». On me dit « vous vous occupez toujours des êtres », mais comment voulez-vous que je ne m'occupe pas d'un Jacques Rousseau qui dit « je » dans les confessions, d'un Chateaubriand qui dit « je » dans les Noirs de Bretons, d'un Lamartine qui dit « je » dans les confidences. Dès que le type dit « je », il m'autorise à aller regarder si c'est vrai. Hein. Un. Mais même quand le type dit pas « je », par exemple, Flaubert, c'est impersonnel, en fait, seulement celui qu'il a avoué, Madame Bovary, c'est moi, et qu'il a dit « le public ne se doute pas que c'est notre cœur ce que nous lui délayons dans l'encre ». Ben, je veux savoir aussi comment il a conduit sa vie, parce que ce qui m'intéresse le plus, c'est la vie, quoi. Alors, il y a d'une part l'œuvre, il y a le type qui nous dit, voilà comment je vois la vie, puis il y a d'autre part l'individu, comment est-ce qu'il s'est débrouillé réellement et pour de bon dans cette vie dont il nous parle.
Mais est-ce qu'il n'y a pas le danger de sacrifier ou d'oublier l'auteur, le penseur, pour le personnage disons anecdotique?
Anecdotique, non. Je ne suis pas du tout un conférencier à anecdote, je ne suis pas non plus un écrivain à anecdote. J'essaie toujours, devant quelqu'un, de suivre, dans la mesure où je le peux, son itinéraire intérieur, pour voir par où il est passé. Au fond de lui-même, hein, tel ou tel détail ne m'intéresse pas, mais ce qui m'intéresse, c'est ce qui révèle la personne profonde, comment il se comporte devant les choses graves de la vie. Alors, ce n'est pas des anecdotes, seulement dans la mesure où ils illustreraient un fait profond.
On peut très bien apprécier une œuvre sans connaître la vie de l'auteur.
Attention. On peut très bien, oui, mais, et puis d'abord, il y a des gens qu'on ne connaît pas, par exemple, je tire, on ne sait rien, et on peut admirer son œuvre qu'on connaît. Mais je répondrai toujours que l'œuvre est encore bien plus intéressante si on peut l'éclairer avec la vie du personnage. Je ne dis pas que ce soit indispensable, je dis que ça ajoute.
Mais quelle importance, par exemple, de savoir que la conversion de Claudel au catholicisme ne date pas de tel Noël de 1886, mais de quelques mois auparavant, finalement, ça n'a aucune importance. Hein.
Croyez-vous, alors je vais vous expliquer ça, si vous voulez.
Ah bah c'est un exemple.
Non, bah, en deux minutes, je vais vous dire. Ce que je reproche à Claudel, respectueusement, je l'aimais bien, je le connaissais bien, je l'aimais bien, c'est d'avoir fait une mise en scène qui correspond pas à la vérité. Vous me dites, peu importe, ça soit passé à Noël, ça soit passé avant, ce qui importe, c'est que Claudel nous a dit, à plusieurs reprises, ça a été pour moi comme le chemin de la masse, une illumination. Et j'ai établi sur les faits que dès le mois d'août 1886, j'avais déjà écrit un texte catholique. Par conséquent, l'illumination, entre guillemets, de l'après-midi de Noël, n'a pas été aussi croyant qu'il le prétend, étant donné que depuis plusieurs mois, il était déjà tout prêt. Alors, il est intéressant, simplement historiquement, de savoir que ça ne s'est pas passé sous la soudaineté, ça s'est passé lentement, progressivement, ce qui me paraît de reste beaucoup plus intelligible.
Comme l'important, c'est de savoir s'il s'est converti au catholicisme.
Oui, c'est vrai. Mais peut-être que là, j'ai pinaille, enfin, j'entre dans un détail inutile, mais tout ce qui touche à ces problèmes religieux ne paraît jamais inutile.
Vous ne pensez pas qu'il faut dissocier le personnage qui a créé l'œuvre, l'homme, de celui qui, en fait, l'homme du quotidien, ses petites faiblesses.
C'est bien, il y a
presque deux personnages différents.
Si vous voulez, il fait peut-être aussi. C'est ce que me répétait le temps des gains. Il me disait, peu importe que l'homme soit comme ça, moi je ne dis pas peu importe. Parce que ce qui m'intéresse le plus, c'est la vie. Alors je voudrais bien savoir comment, pour de bon, dans la vie, un homme s'est comporté.
Enfin, vous savez qu'on vous reproche, complaire dans des histoires d'alcool.
Ah oui, ça, alors ça c'est grotesque, hein. Parce que le seul bouquin que j'ai fait, qui s'appelle Hugo et la sexualité, c'est le seul qui soit concentré sur ce problème. N'empêche que je ne sais quel religieux disait que j'étais une vieille carcasse libidineuse. Mais enfin, j'attache beaucoup d'importance à ces choses-là. Mais je n'ai pas concentré mon esprit sur ce problème. Du côté des amis de Peggy aussi, on est fous de rage parce que j'ai parlé de la liaison de Peggy et de cette Blanche Raphaël, dont il ne faut pas parler. Attention, il y a les enfants, c'est vrai, je comprends très bien. Mais comme je sais parfaitement que dans la vie de Peggy, ça a été un orage, ça a été extrêmement important, je ne peux pas ne pas en parler. Alors dès que j'en parle, on dit, vous vous occupez, c'est un obsédé sexuel, vous vous occupez de cette histoire-là. C'est très important pour tout le monde.
Vous pensez que dans certains cas, la vie privée d'un homme livre sa vérité?
Oui, partiellement. Je ne vais pas reproché l'œuvre, parce que l'œuvre, quelquefois, le témoignage, s'il voudrait pas être, il n'arrive pas à être. C'est peut-être le meilleur de lui-même qu'il essaye de mettre dans son œuvre. Mais ça m'intéresse bien de savoir, voilà ce qu'il aurait espéré, ce qu'il voulait, et voilà ce qu'il a été.
Alors quand on vous dit, vous prêchez le petit ou l'anecdotique, ça vous indigne, ça vous fait...
Ça m'intéresse, oui. Non, c'est pas d'anecdote. C'est me rapprocher le plus possible d'une authenticité humaine, parce qu'il n'y a rien de plus passionnant que les êtres humains.
Est-ce que vous avez déjà été amené à changer d'avis sur un personnage en auteur?
Ah oui. Par exemple, Zola, j'ai retrouvé, il n'y a pas bien longtemps, La Rougeur au front, vous savez, honteux de moi, un texte qui avait été fait pendant la guerre, en 1942. Non pas sur Zola, mais à propos de Zola, où je parlais de Zola comme j'avais été élevé à en parler, c'est-à-dire, hein, qui pensait une russe assez brutale et faisant des descriptions qui lui valaient la notoriété. Et bien, je me suis aperçu que je m'étais trompé. Alors, je me suis. Mon changement, mon option sur Zola a été. L'optique a été totalement renversée. De même, j'ai été élevé dans l'idée que Victor Hugo était un artisan du verre formidable, sans les cymbales, mais que sa pensée n'était pas profonde. Et là, j'ai aussi. J'ai écrit des bêtises et j'ai enseigné à mes élèves des sottises. Quand je leur disais, attention, vous savez, Victor Hugo, c'est un artiste extraordinaire, mais c'est pas un penseur. Eh bien, si. Alors là, j'ai changé. J'ai changé sur Vigny. À cause de la découverte que j'avais faite, j'avais pas mal de respect pour Vigny. Si je me suis aperçu que ce type qui s'annonce comme étant le J, juste avec un J majuscule, drôle de juste, enfin, quand on fait l'indication de police comme il l'a fait, c'est pas beau.
D'accord, mais cela ne change rien à la valeur de son œuvre.
Ah, et c'est pour ça que j'ai écrit un bouquin, il y a 30 pages sur le comportement politique de Vigny et 200 pages sur le poète. Je salue le poète.
Vous n'avez pas l'impression, à propos justement de Vigny ou de Constant, d'être trop sévère, trop injuste?
Ben, on voudrait me le faire dire, mais non. Je maintiens ma position.
En fait, vous prenez des risques, vous critiquez
des lois reconnues.
Des lois reconnues. Quand on vous critique, vous.
Bon, ben, évidemment, ça dépend. Je vous réponds encore avec sincérité. Lorsque je vois une critique, ça m'arrive, bien faite, et avec des preuves, je baisse le nez et je reconnais que je peux m'être trompé. Mais quand je suis personnellement insulté, comme je l'ai parlé plusieurs fois, ça me fait mal. Je me rappelle une phrase de Jaurès à qui on demande la même chose. Je lui dis, est-ce que les critiques contre vous vous blessent? Il me dit non quand je ne les lis pas. Et bien, j'essaye de lire le moins possible ce qui est trop méchant contre moi parce que je sais bien que je suis hypersensible et que ça me rongera. Alors il y a des choses dont on me dit, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a un article de certains religieux qui me traitait des tartes de vénal, etc. Je n'ai jamais voulu le lire cet article, on m'en a parlé, mais je me suis dit, si je le lis, ça me restera dans l'esprit comme une souffrance permanente. Alors je suis, c'est vrai, je n'aime pas lire ça.
Mais vous estimez, disons, que votre approche en tant que critique littéraire, elle est objective, enfin.
Non, personne n'est objectif, ça veut
dire qu'elle est très honnête.
Mais c'est sûr, hein, je m'applique tant que je peux. Je vous jure que je suis, en fait, je me méfie de moi-même. Je ne suis pas du tout impartial, hein, certainement pas. Je ne suis absolument pas impassible. Je ne suis pas objectif. Mais je suis honnête. C'est-à-dire que si je trouve quelque chose qui me gêne, même pour un livre que j'aime, comme Victor Hugo, il y a des côtés qui me déplaisent, je le dis. Je n'ai pas été très content de l'attitude de Zola que j'aime beaucoup. Au moment de la débarque, en 1892, il était candidat à l'Académie française et il a parlé de la Commune d'une manière qui m'est très pénible. Et je ne le cacherai pas, ça serait déshonorant de ma part de le cacher. Donc je crois que ma règle, ça, c'est la loyauté.
On a l'impression que l'histoire de plus en plus vous retient davantage que la littérature.
Ah oui, c'est vrai.
Pourquoi?
Non, Dieu, il ne faut pas bien vous expliquer, sinon que j'ai été traîné à l'histoire par la littérature. Lamartine, qui a eu un grand rôle politique, m'a amené à étudier la révolution de 1848. Hugo, qui a écrit Les Châtiments après le coup d'État de décembre, m'a amené à travailler sur le 2 décembre. Zola, qui s'est emballé pour l'affaire Dreyfus, m'a amené à étudier l'affaire Dreyfus, etc. Et je me suis senti de plus en plus happé par l'aventure historique plus que par l'aventure individuelle. Et maintenant, c'est vrai, enfin, je me sens plus historien alors que je suis agrégé de lettres, par agrégé d'histoire. On me jette à la tête que je ne suis qu'un amateur en histoire, c'est vrai, que je suis plus en plus intéressé par
quelle raison ça.
Oh, ben, probablement à cause de mon propre engagement, enfin, politique, parce que la politique compte beaucoup pour moi. Enfin, mon option politique, je sais ce que je veux, et j'aime regarder dans l'histoire ce qui s'est joué et qui sert à expliquer le présent.
Justement, à propos de cette conception de l'historien, vous avez été très sévère pour un homme, Napoléon, extrêmement sévère, mais est-ce que là, on ne peut pas dire que vous avez fait moins d'historien que de partie de la même.
C'est un livre qui est à part dans mon œuvre, j'aime pas cette expression. J'ai pas fait un livre au millimètre comme je fais les autres. Hein. Quand je fais un livre d'histoire, vraiment je travaille document sur document. Mais là, il y avait le centenaire de 10 ans de 1949, hein. C'est le bicentenaire, quoi. Et je voyais ce qui se préparait. Et je sentais bien dans les grandes revues que ça allait être une exaltation. Or, ce Napoléon me paraît vraiment quelqu'un qui n'était pas de lui d'estime, qui était vraiment un ravageur et un individu extrêmement bas. Alors j'ai poussé un sujet, une gueulante, quoi, si vous voulez. J'ai écrit un bouquin d'enforcement très vite fait, je l'ai fait en 4 mois. Alors qu'à l'habitude, je mets un an ou 2 ans pour faire un livre. Une espèce de hurlement. Attention, c'est pas comme ça, hein, on va vous raconter des blagues. c'est tout. Mais je ne le remis pas à mon bouquin, mais non plus je ne le mettrai pas en vedette en disant si j'ai fait mieux, certainement pas.
Mais alors est-ce que c'est vraiment un ouvrage d'historien critique, c'est pas plutôt un ouvrage de polémique?
De polémique. Peut-être que j'ai eu peur, je ne le renie pas ce bouquin, je ne le renie pas. Je trouve qu'il fallait le faire, mais qu'il est injuste alors de
prétendre.
Non, il est injuste de prétendre qu'il travaille toujours comme ça. Je ne crois pas, non, je défendrai toujours mon point de vue sur Napoléon. Je n'ai pas été injuste et même peut-être été encore trop tolérant. Mais, en fait, ce n'est pas un livre sur lequel j'attache beaucoup d'importance parce que je ne l'ai pas fait comme les autres, je ne l'ai pas fait minutieusement. Je l'ai fait dans forcément.
Mais enfin, est-ce qu'il y a une suite logique dans le choix
du personnage? Ah non, certainement pas, certainement pas. Non, non. Sur Jeanne d'Arc, par exemple, pourquoi est-ce que je me suis mis brusquement, il y a 2 ans, à travailler sur Jeanne? Rien, il n'y avait même pas centenaire, il n'y avait rien, sinon que c'était une idée qui me tarabustait depuis que j'étais gosse, en disant c'est une admirable histoire, cette Jeanne, mais est-ce qu'il n'y a pas une grande part des gens? Alors j'ai voulu me rendre compte, et j'ai pris aussi des documents, et les documents étaient presque tous rassemblés au milieu du 19e siècle par un nommé Jules Tichera en 1849, 5 volumes, en latin, je savais plus le latin ou presque, alors je l'ai repris, simplement parce que je voulais, pour moi-même, en avoir le cœur net. Bon, puis maintenant, je travaille sur Peggy, il n'y a pas de bien, sinon aussi, on peut dire Jeanne d'Arc Peggy, mais enfin, c'est pas à cause de ça. Ça se trouve que j'avais commencé à travailler en 62 sur Peggy, j'ai abandonné pour autre chose, et que j'y reviens maintenant parce que je veux utiliser mon travail. Non, il n'y a pas, je vais un peu en zigzag, vous savez. Seulement, il est vrai aussi que je choisis mes personnages, je vous le disais, je crois, tout à l'heure, je ne sais pas si on est écouté à ce moment-là, un peu en fonction de mon option personnelle, si je crois que tout petit peu je leur ressens, donc est-ce qu'ils vont dans la direction que j'aime.
Justement, une dernière question au niveau de l'histoire. Tout à l'heure, vous me disiez que vous avez ressenti quand vous étiez jeune à quel point l'histoire était trop officielle, un peu l'histoire des idées reçues. Vous avez l'impression que c'est encore le cas aujourd'hui?
Je n'ai pas vérifié dans les manuels, mais je suis allé plusieurs fois dans des groupes d'enseignement laïque en France où je me suis fait montrer les manuels. Eh bien, il y a un progrès, certainement un progrès, du moins dans l'enseignement laïque. Je ne sais pas si c'est pas l'enseignement religieux. Mais je regardais la Révolution française, et bien je vois qu'on commence à faire tout de même des distinctions maintenant entre Danton et Robespierre. Alors, quand j'étais gamin, on vous disait, Danton, c'est de l'audace, du patriotisme, etc., et que Robespierre, c'est de l'homme humain couvert de sang. Et bien, maintenant, dans les manuels, on commence à dire la vérité. Il me semble, je n'en sais rien pour la suite, mais il me semble que dans l'ensemble des manuels français, on commence à s'approcher un petit peu de la vérité, au moins au moment de la Révolution. Je n'ai pas vérifié pour la Commune, il faudrait voir. Cette année, c'est le centenaire de la Commune, et je ne sais pas. Donc, la Révolution, c'est mieux.
Oui. On va peut-être passer maintenant un chapitre plus poussé de votre intimité.
Voilà.
Occupons-nous un peu plus de vous-même que de votre intimité.
Évidemment.
Vous avez cité Sainte-Beuve qui disait que pour commencer à entrevoir quelqu'un, il faut savoir comment il s'est comporté sur 3 chapitres
principaux,
l'argent, la sexualité et la politique. Alors nous allons vous appliquer ces 3 critères.
Oui.
L'argent pour vous, bon. Quelle importance?
Je vous ai dit au départ, tout à l'heure, que j'ai été élevé dans la pauvreté, et c'est vrai, on se lavait tous à la cuisine sur les yeux. Alors, j'avais bien envie de me tirer de là. Hein. Et j'ai eu souvenir des difficultés qu'ont eu mes parents pour m'élever et ma sœur, alors que j'avais tellement peu d'argent. Alors, j'en ai pris un respect, l'argent, en ce sens que je n'aime pas que les gens qui jettent l'argent par les fenêtres. Et j'ai été très frappé en disant, l'argent, justement, de Peggy, il disait, il y a 2 sortes d'argent. Il y a l'argent honorable, c'est l'argent de la paix, l'argent du traitement, l'argent du salaire. Et puis il y a un argent déshonorant, disait-il, c'est celui des gens du monde. Et bien je ne veux pas être un gens du monde. Alors j'essaye de ne vivre qu'avec ce que je gagne pour mon travail personnel. C'est en ce sens que j'attache en effet l'importance à l'argent pour... C'est vrai, je suis content de vivre dans l'aisance maintenant, mais je n'oublie pas d'où je suis sorti et j'essaye, enfin, ma femme m'aide beaucoup sur ce point, de ne pas être égoïste et de... penser à d'autres gens que moi.
Et vous aimeriez être riche?
Non, vraiment pas. Vraiment pas. C'est une chose... Quelquefois, je me dis si je gagne à une loterie alors que je ne prends jamais de billets, ça ne m'intéresserait pas du tout. Je suis très content comme je suis. Nous avons ce qu'on appelle une modeste aisance. Ben, je suis très content comme ça.
Comme ça vous donnerait une indépendance totale pour vous consacrer?
Mais je suis assez indépendant. J'ai ma pension française maintenant. J'ai du quoi vivre jusqu'à ce que je meurs. Il n'y a pas de problème, non. Je ne suis pas du tout, c'est bien vrai, je ne suis pas avide de choses, parce qu'en somme, je dis très simplement, vous savez, ce qui m'intéresse, c'est d'écrire, c'est de travailler, je cours pas les filles, je joue pas aux courses, j'ai pas besoin d'argent. Alors, tout va bien comme ça.
Alors, deuxième chapitre, après l'argent, la sexualité.
Oui, c'est très important, hein, c'est extrêmement important. C'est pour ça que je dis toujours qu'au 19e siècle, il y a tout de même deux grands types, c'est une banalité de le dire, enfin, c'est Marx et Freud, parce que Marx a attiré l'attention de tout le monde sur l'importance des problèmes économiques, et que Freud a attiré l'attention de tout le monde sur l'importance des problèmes sexuels. Notez que Freud va bien au-delà, hein. On l'a réduit, Freud, en disant qu'il n'est que le type qui a montré l'importance de la sexualité, il a montré autre chose. Mais c'est vrai. Alors je reconnais parfaitement que c'est très important, et par bonheur, je suis arrivé à n'être plus l'homme épouvanté par ces choses que j'ai fait quand j'étais un enfant, à cause du dressage catholique qui a été le mien, où j'ai longtemps considéré que la sexualité était une chose dangereuse et redoutable. Absolument plus. Enfin, je crois que nous avons été victimes d'un dressage funeste. Et ça m'intéresse beaucoup de savoir dans chaque vie humaine comment les gens arrivent à se tirer d'affaire là-dessus. Je dois dire que j'admire beaucoup ceux qui ne sont pas obsédés, que je vois tellement autour de moi des gens qui ne pensent qu'à ça, que ça m'intéresse de voir des gens qui pensent à autre chose. Voyez-vous, il y a trois qui m'ont beaucoup rappelé à ce point de vue-là, c'est Lamartine, c'est Jaurès et c'est Robespierre. Et j'ai fini par comprendre ce qui leur arrivait. C'était des gens qui, à la place d'une tentation, avaient commis une tentation plus grande. Et la tentation normale, tentation de tout le monde, c'est de faire l'amour. Et puis il y a une tentation plus grande qui est de se dévouer à quelque chose qui les dépasse. D'un type comme Lamartine, qui était très viril, à partir d'un certain moment de sa vie, il a été passionné par une certaine idée. C'est ce qui est arrivé à Jaurès, c'est ce qui est arrivé à Robespierre. Danton se foutait de lui, il doit être unique, il n'a pas de maîtresse. Non, c'est parce que Robespierre était pris par une idée. Et bien, dans une certaine mesure, bien lointaine, je crois que je suis comme ça, enfin, j'ai été pris par une certaine idée, ce qui m'a évité d'être étouffé par la sexualité.
Et politiquement, comment vous définissez
ça? Je sais très bien ce que je suis un fanatique, je sais très bien. Ça tient probablement à mon sens, hein, parce que mon père était donc un agent voyé, et vous vous rendez pas compte de ce que c'était que l'agent voyé sous la force de la République. Mon père était agent voyé dans les années 1890, je crois, avant la Fédération. Et dans le salon dans les petits villages de France, il était à Ligny, un tout petit patelin. Il y avait dans tous les villages, ou presque dans tous les villages de France, moins l'ouest, il y avait le petit bastion républicain, qui était pour toujours l'instituteur et l'agent voyé. Mon père était viscéralement un républicain. Il a été emballé par la Fédération suisse, enfin, il s'est compromis. Alors je lui dois ça. Et il est très évident que, comme Valès disait, moi je suis toujours du côté de mon fédéraliste de la République, j'ai ça en moi. Je suis essentiellement, viscéralement, l'homme de gauche. Je suis du côté des pauvres gens.
Bon, homme de gauche, mais qu'est-ce que pour vous, ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie, homme de gauche?
Bon, ben, ça c'est très clair. Vous savez, quand on le dit aujourd'hui, la droite et la gauche, ça ne signifie rien, ça signifie très nettement quelque chose. La droite, c'est l'argent maître. Et la gauche, c'est les gens qui essaient de justifier quelque chose au règne de l'argent. Or, le règne de l'argent, c'est quelque chose sous quoi nous sommes encore aujourd'hui. J'étais tellement frappé de trouver chez Mauriac, en 1963, un texte où il parlait de ce petit nombre de mains, dit-il, ce petit nombre de mains, entre lesquelles nous sommes tous, moi comme les autres, disait-il. C'est vrai, ça, il y a un petit nombre de mains qui décident de la politique mondiale. Et bien, j'aime pas ça.
Vous êtes indigné par la société, par le système social dans lequel nous vivons?
Exactement. Tout à l'heure, je vous ai dit avec respect, puisque j'habite la Suisse, que c'est un pays capitaliste, et c'est parfaitement vrai. C'est un pays capitaliste honnête, puisqu'il n'a pas permis la misère. Il y a trop de pays capitalistes où la misère est à l'état endémique. Et bien ça m'atteint substantiellement.
Mais ce très petit nombre dont vous parliez,
d'accord,
si c'était la gauche qui est au pouvoir, qu'est-ce que
c'est? Non, c'est très petit nombre. C'est des hommes d'argent, c'est très petit nombre. C'est la grande banque, quoi. On peut numéroter ça, vous savez, il n'y a qu'à regarder les conseils d'administration, on voit les mêmes noms qui reviennent.
Je veux bien, mais je prends l'exemple, si vous permettez, de l'Union soviétique. C'est peut-être un très petit nombre qui, à l'heure actuelle, dirige l'Union soviétique.
Mais bien entendu, c'est tout à fait vrai. Le drame de la Russie, c'est qu'elle a représenté une puissance d'attrait pendant longtemps, et cette puissance d'attrait est complètement morte. Et je le comprends parfaitement, parce que je ne voudrais pas vivre sous le régime soviétique. Et je pense à ces malheureux Tchèques et à malheureux autres aussi, qui sont dominés par des gens qui les colonisent. Alors ne me faites pas dire que je suis communiste, je ne le suis absolument pas. Mais je suis également indigné, vous entendez, également indigné par ce qui se passe du côté des communistes et ce qui se passe du côté de l'Occident. En particulier ce qui se passe du côté de l'Amérique. Alors là, évidemment, je suis, comme on dit, entre guillemets, de gauche. Je ne le nie pas et je me sens fiévreusement de ce côté-là. Peut-être même pas assez intelligemment, avec quelque chose en moi qui est plus fort que moi. Je suis de ce côté-là violemment, hein, avec un parti pris déterminé. Et jamais rien ne fera changer.
Quand vous dites que vous êtes homme de gauche, vous entendez par là que vous êtes révolutionnaire?
attention, je ne voudrais pas du tout affiter le système communiste, ni à la Suisse, ni à la France. Ce qui est bon pour Mao Tse-Tung n'est certainement pas bon pour la France. Mais je voudrais que mon pays et que l'Occident cessent d'être dominés par l'argent. Et ça y est, moi.
Là, vous souhaitez des transformations profondes de la société.
Exactement. Je trouve que les fameuses structures économiques et sociales qui sont fondées sur le profit, sur la consommation, sont des structures fausses.
Alors, est-ce que vous êtes engagé politiquement? Est-ce que vous avez fait quelque chose dans votre vie?
C'est-à-dire que j'écris des bouquins, quoi. On voit ce que je pense dans mes livres. Oui, non, j'ai jamais été de la politique militante en ce sens que je ne suis pas présenté à des élections. Mais quand il y a eu des positions à prendre, par exemple, du Front Populaire, j'étais professeur à Lyon, et ben, j'ai marché avec le Front Populaire. Enfin, j'ai marché, c'est-à-dire j'ai fini dans les rues, point en l'air, et j'ai été dans les bagarres, et j'ai eu le crâne, non, enfin, la peau du crâne fendue dans une réunion de 1936 avec mon ami et mon chef, enfin, mon maître, Marc Sangnier, quand j'avais été le secrétaire. Oui, j'ai pris des options, quoi. Mais après, je n'ai pas fait de politique militante, en sens que je suis inscrit dans aucun parti.
Et vous avez eu envie de faire la politique?
Non.
Fois, non,
non. Je me suis dit que ma vocation à moi était probablement de dire des choses. Alors, je les ai dites à travers l'histoire, parce que je crois que c'est très intéressant d'éclairer les gens, de jeter une projection sur le présent d'après le passé. Alors, au fond de tous mes livres d'histoire, il y a une arrière-pensée que je ne nie pas.
Non, on pourrait pas s'amener à ce que vous avez dit, que c'est pas une forme de prudence, que de s'interroger sur le passé au lieu de lutter aujourd'hui?
Prudence, c'est ça que je ne suis pas fait pour ça. Je ne me sens pas du tout une vocation d'homme politique. Je ne suis pas compétent en économie. Je ne me reconnais pas compétent. J'ai plutôt un élan qu'une connaissance. Alors je crois que pour être un bon député, il faut être calé. Et je ne suis pas calé en économie politique. Hein. C'est pour ça que je me suis dit tout ce que je peux faire pour dans la ligne. Franchement, c'est bien ça pour une vérité. Si j'ai travaillé sur Jean-Jacques, c'est parce que Jean-Jacques a été le contrat social, c'est ça qui me plaisait en lui. Ce qui m'a beaucoup attiré de plus en plus chez Lamartine, c'est l'homme de la République 48. Ce qui m'a tellement plu chez Victor Hugo, c'était l'homme de la résistance républicaine après le coup d'état du 2 décembre. Je suis fraternellement d'ailleurs ces gens-là.
Maître de gauche, hein, ce n'est pas sacrifier peut-être une certaine mode de l'intelligentsia européenne?
Moi j'en sais rien, je m'en fous de la mode. Enfin, je suis comme ça parce que je suis comme ça.
Vous étiez gaulliste pendant la guerre?
Oui, oui, pendant la guerre, oui, plus après, non.
Pourquoi?
Non, à partir du RPF, je ne pouvais plus, et puis alors quand on devait...
1947, donc.
Oui, mais lorsque De Gaulle a fait la politique, vous savez, avec le RPF, je ne marchais plus parce qu'il groupait autour de lui toute la droite. Et quand il a été le président de la République, je continuais à avoir du respect pour lui. Un respect que je ne peux pas porter à d'autres, mais que je lui porte à lui. Parce que c'est un homme du 18 juin, et que c'est un homme d'un désintéressement absolu. Mais je regrettais que cet homme ne s'occupe pas jamais de ce qu'il avait lui-même l'intendance, et qu'il a laissé des traitements en France totalement ridicules. Enfin, j'avais interrogé il y a 2 ans le facteur de l'endroit où j'habite pendant l'été, et quand ce type m'avait dit qu'il gagnait 430 francs par mois, comment voulez-vous qu'un homme qui était marié vive avec 420 francs par mois? Mais c'était sous De Gaulle. De Gaulle ne s'intéressait absolument pas à la condition des Français. Il paraît que, enfin, on m'a dit, qu'une des raisons de sa chute, c'est qu'il avait l'intention de s'occuper de ça. Et que pour lui, ce mot qu'il avait lancé de participation n'était pas un mot vide de sens. Et c'est pour ça qu'il a été renversé par quelqu'un qui l'a remplacé, parce que c'est quelqu'un qui est au service de la droite et des banques. Tandis que De Gaulle commençait à inquiéter les banques. Alors, Victor Hugo a dit aussi, puisque c'était Hugo, il était le devoir des lions et de vieillir toutou, disait-il en rigolant. Eh bien, je suis vieux et je ne serai jamais toutou, soyez tranquille.
Et face à la protestation de la jeunesse, on peut en parler peut-être pendant une minute, oui. Vous enseignez à l'université de Genève, si je ne me trompe.
Oui.
Comment vous situez-vous face à ce qu'on appelle la contestation?
Il y a des tas de choses confuses là-dedans. Hein. Je crois que la plupart des gens qui ont respecté ne savaient même pas ce qu'ils voulaient mettre à la place. Ils étaient contre sans être pour. Il n'y a pas moyen d'arriver chez eux, enfin, si c'est comme gauchiste, à trouver un comme dénominateur commun. Ce sont des gens qui disent on ne peut pas vivre dans cette société qui ne nous offre rien, enfin, qui ne nous offre pas un idéal, qui... rien pour quoi nous puissions vibrer, enfin, nous élancer. Alors je comprends très bien s'il y avait une noble en eux en disant mais c'est pas vivable cette vie qu'on nous propose. Mais hein, ce qui est dramatique, c'est qu'ils ne savent pas comment être à la place. Bien entendu que je suis avec eux, mais en me disant moi-même je ne saurais pas où les conduire. Je suis avec eux négativement en me disant qu'est-ce qu'il faut faire de mieux, je ne le sais pas trop. Techniquement, hein, techniquement je ne sais pas trop.
Et vous voudriez avoir leur âge aujourd'hui?
Oh non, enfin, j'ai pas envie de recommencer ma vie. Ça. Je suis à la fin, ça va très bien vite.
Enfin, vous êtes chrétien.
Oui, ça, c'est aussi important que l'autre, c'est même plus. C'est capital pour moi, ça.
Alors pourquoi? Vous, homme de gauche,
c'est n'importe quoi, si. Autrefois, oui, quand j'étais gamin, on faisait encore l'opposition à un catholique et à un homme de droite. C'est vrai, quand j'étais enfant, c'était comme ça. Mais vous savez, ça s'est beaucoup transformé. Et puis il y a eu, heureusement, le fait de la guerre et de la résistance, des pas puristes sont engagés dans la résistance. Je crois que maintenant, le lien anticléricalisme, qui était tellement fondé, a disparu. Enfin, je l'espère. Tout à l'heure, quand vous me parliez de ma notion politique, je vous ai répondu viscéralement au sujet de mon père. Ben, je crois que je dois répondre de la même manière. Avec loyauté, vous voyez qu'on pourra très bien me coincer en me disant que vous n'êtes pas sérieux. Je pense que mon option religieuse dépend pour une part aussi de ma naissance, enfin de maman, qui était républicaine, comme mon père, c'est assez curieux, mais très catholique. Et alors elle m'a formé, c'est vrai. Hein. Et il s'est passé quelque chose d'assez pathétique, je peux vous dire ça. Mon père avait dit, la fille, il avait dit à la maman, la fille l'abandonne. Mais ça, le garçon, hein, je me dis à la première communion, s'il tient, mais après, puis... Bon, alors j'ai fait ma première communion à 12 ans, et puis il y a eu du drame, alors là, tu y vas ou tu vas pas à la messe. Alors mon père m'a dit, mais fais ce que tu veux. Alors je savais que je ferais une telle épouvantable à ma mère en n'y allant pas. Alors j'y suis allé, par vite et facile. Hein. Et vers 18-19 ans, quand je suis pas à l'école normale, ça a failli tourner mal. J'étais plus chez moi, j'étais pensionnaire à Lyon, en fait tourner mal, c'était très bien pour vous. Je sentais que je me disais, mais tout ça, c'est des idées en fausse. Alors il m'est arrivé deux choses que j'appelle de chance. Premièrement, nous avions en première supérieure à Lyon, pour la philo, un type qu'on peut oublier aujourd'hui, quand il a fait une thèse importante sur Kant, s'appelait Pierre Lachiel, très union vrai, Lachiel vrai. On ne pouvait pas, nous on l'aimait beaucoup, hein, nous étions une trentaine de camions, c'était un professeur extraordinaire. Et on ne savait pas qu'elle était comme sur religieuse, on ne savait pas, il ne disait rien. Il faisait un cours sur Kant, sur Platon, très bien. Et puis, comme j'allais encore traditionnellement à la messe, il s'est trouvé qu'un jour, à Lyon, j'ai vu ce Pierre Lachevray, notre professeur, bien aimé, enfin, révéré. En politique, j'ai été secrétaire de Marc Sonnier, qui était l'ancien homme du Sillon, j'ai été condamné par le pape pour faire la vie de Candide. J'ai vécu 2 ans dans son intimité, j'étais secrétaire particulier. Et là, c'était un homme pour qui le christianisme était tout le temps vécu. C'était pas du tout laïque, c'était pas un littéraire. C'était un homme qui croyait totalement. Alors, prenons l'exemple intellectuel de ce professeur, et l'exemple humain de ce Sonnier, qui était un catholique pour de bon, c'est un chrétien, j'aime mieux ce mot-là. Le chrétien pour de bon a fait que je suis resté. Et puis, peu à peu, ce sont des idées nouvelles qui sont venues en moi, qui n'étaient plus simplement ni l'idée traditionnelle, ni l'exemple d'un tel ou un tel. Mais ma propre pensée fait que maintenant, et de plus en plus, je dis bien de plus en plus, je suis dans une conviction chrétienne.
Je vois quelle conviction. Qu'est-ce que c'est que le christianisme?
Voilà, mais c'est tout un discours à faire. Hein. Il faut distinguer deux choses. Dieu et Christ. Je crois que l'on peut justifier rationnellement l'existence de Dieu. C'est ce qui m'a exaspéré chez Jacques Monod, que je respecte par ailleurs, quand il nous explique dans son discours inaugural de la Collège de France, que la science, telle qu'elle est aujourd'hui, impose l'idée de l'insignifiance de l'homme. Non, quand il dit impose, c'est faux. Ça n'impose rien du tout. Parce qu'un homme aussi savant que lui, a en face de lui des gens également savants, et qui ne pensent pas comme lui métaphysiquement. Je crois que l'idée d'évolution, je crois que la seule existence de la vie, que lui a fait un scandale, vous savez, Jacques Monod dit, c'est un scandale la vie. Et l'existence de l'âme, en fait, l'esprit qui est en nous, me paraît, pour moi comme pour Jaurès, une sorte de démonstration expérimentale de Dieu. C'est l'expression de Jaurès. Bon. Mais entre Dieu et Christ, il y a une distance. Alors là, je suis obligé de dire que je saute le pas. C'est un pari. On ne peut plus aujourd'hui soutenir que le Christ n'a pas existé. Il y a plus qu'une Rodinson, le journal, le Nouvel Observateur, c'est un très joli article. Rodinson est un juif, je crois, c'est un petit peu un incroyant. Et il dit qu'il est absurde de prétendre que le Christ n'a pas existé. Moi, je trouve, parmi les incroyants, que c'est Garaudy, l'exprimer le mieux sur le Christ en disant, on sait presque rien de ce personnage, mais on sait au moins la commotion qu'il a produite. Alors, je suis français, je suis occidental, je suis donc dans ce qu'on appelle l'ère d'influence du christianisme. Et je me suis souvent posé la question en me disant, mais si j'étais né en Inde, je serais dans l'ère d'influence brahmanique, bouddhique, etc. Alors j'ai étudié, enfin j'ai lu tout ce que j'ai pu sur ces religions. Et je me suis aperçu que le fondateur du bouddhisme, enfin Gautama Bouddha, on en sait beaucoup moins que l'on en sait sur le Christ. Et que c'est pas un personnage qui a prononcé les mots qu'on attribue au Christ, et je crois être les vrais, à savoir que ce personnage représentait, c'est dit par Hugo ça, la quantité de Dieu qui peut tenir dans l'homme. Toute la quantité de Dieu qui peut tenir dans l'homme. Alors ce que nous a dit ce personnage, j'y adhère de toute ma substance, de toute ma raison. Sans sens que je suis chrétien. Je veux aussi qu'on dise je suis catholique parce que je ne suis pas séparé de l'Église, mais je désire passionnément un très, très, très gros changement dans l'Église. Un très grand changement. Non, je suis chrétien, mais je voudrais un catholicisme changé.
On y viendra, mais juste avant d'en parler, oui. Vous avez évoqué le bouddhisme. Vous croyez à la supériorité du christianisme dans les autres religions?
Attendez. Il y a spiritualité bouddhique, ce que j'en connais. Et il y a un de mes amis que j'aime beaucoup, il s'appelle Henri Hartung, qui vit maintenant en Suisse, qui est un homme qui a vécu en Inde, m'a plusieurs fois fait remarquer que j'étais naïf d'attribuer à la seule spiritualité chrétienne une valeur supérieure. Il m'a dit, c'est que vous ne connaissez pas la spiritualité de l'État. Et de plus en plus, je crois en effet que les occidentaux chrétiens ont beaucoup sur la prendre, du côté du spiritualisme tibétain ou hindou ou zen, par exemple. Je le crois. Je ne suis pas syncrétiste, en ce sens que je ne dirais pas que toutes les religions se valent. Mais je crois, c'est une phrase de Taylor, ça fait tout ce monde converge. Et que par conséquent, ceux qui, très loin du christianisme, ont une certaine préférence pour une vie spirituelle, sont des gens chez qui nous avons quelque chose à prendre. C'est pourquoi je les regarde avec un très grand respect, une très grande sympathie. Voilà ce que je veux dire. Je crois personnellement, oui, que le Christ a... C'est le Christ, que ce personnage que nous connaissons mal mais que nous entrevoyons est probablement l'être humain qui en a vu le plus long sur les réalités surnaturelles, auxquelles je crois. Vous pouvez dire que si ça n'existe pas, comme je crois qu'elle existe, je pense que celui-là est celui qui en a vu le plus long. Il y a ici, je cite toujours mes auteurs, pardonnez-moi, je suis comme ça, quoi. Il y a Zola, 21 ans, lisait, oui, es-tu chrétien? Alors il dit, je ne sais pas si le Christ est Dieu, disait Zola, en tout cas je crois au Dieu dont le Christ a parlé. Ben, ce sera exactement la pensée. Je crois au Dieu dont le Christ a parlé.
Mais vous croyez à un au-delà?
Ah oui, tout à fait. Je suis mais radicalement convaincu que ça ne se termine pas ici. Et je suis aussi convaincu que quand on aura franchi le seuil, vous me disiez, il n'y aura rien. Et ben, moi, je crois qu'il y aura quelque chose, mais inimaginable. Les choses que j'essaie de nous faire ici, de l'au-delà, sont bouffonnes. Je crois qu'on sera ahuri. Tout à fait autre chose que ce qu'on imagine. C'est pour ça que je m'interdis de rien imaginer. Je me dis simplement, c'est pas possible que le noyau de moi-même, cette espèce de réalité précaire et farouche qui me constitue, qui sait que je suis, moi, ça ne peut pas se dissoudre.
Ça ne sera pas le néant.
Non, je suis convaincu que ce ne sera pas le néant parce que le néant n'existe pas. Parce que s'il existait, il serait du néant. Rien ne peut disparaître. Rien.
Mais venons-en, si vous voulez, un autre aspect que vous avez d'ailleurs tout à fait abordé d'une certaine manière marginale, il y a une partie de l'Église catholique,
Oh, certainement, ouais. Il y a beaucoup de choses. Il y a toute cette mise en scène, il y a toutes ces coutumes. Vous savez, quand on voit au cinéma, c'est... même le concile, quoi, c'est une bonne invention, ils essayaient de faire ce qu'ils pouvaient, c'est pas rien. Mais quand on les voit dessiner avec un chapeau pointu, mais c'est comique, vous comprenez, c'est exactement comique, alors il faut que tout ça change. Il faut que ces gens comprennent qu'il y a une formulation à trouver, parce que l'abjure même tout. C'est une blague, enfin, c'est du dépoussiérage. C'est une mutation, très profonde. Il faut que les gens, les chrétiens, trouvent les mots qui aujourd'hui peuvent avoir un sens, qui ne racontent pas des vieilles histoires mythologiques qui n'ont plus aucune signification humaine.
Mais enfin, est-ce que, selon vous, il y a un sens à la vie, oui. Est-ce qu'il y a un sens à votre vie?
Oui, mais bien sûr. Voyez-vous, moi je crois qu'on est tous, au départ, une espèce d'ébauche, une espèce nocturne de nous-mêmes. Nous sommes là, c'est bête ce que je veux dire, mais c'est ce que je crois. Nous sommes là pour nous fabriquer, pour nous accomplir. Nous sommes au départ quelque chose d'insuffisant, de mal foutu. Et puis peu à peu, en vivant, on essaye d'être un être humain à peu près correct. Et la voie, la seule voie d'accomplissement, c'est la bonté, c'est l'amour.
Je vais vous poser peut-être une dernière question. Vous paraissez constamment sous pression. Est-ce que vous êtes un homme heureux?
Oui, bien sûr. Oui. Est-ce qu'on est heureux? J'ai tout fait sur cette raison de l'être et la vie est en elle-même quelque chose d'assez dur, vous savez. La vie s'est faite d'arrachement. J'avais 4 enfants dans cette maison et là plus. C'est quelque chose, ça, vous savez, d'être seul avec ma femme dans un appartement. C'est pas toujours drôle, la vie. Alors, heureux, c'est ainsi, on est parfois heureux. Mais est-ce que la vie est une chose heureuse? Je n'oserais pas le dire. C'est une épreuve, c'est un travail à faire, c'est passionnant. C'est le bonheur, ça n'existe que par éclair.
Et bien voilà, c'est sur cette dernière phrase que nous terminerons cette émission qui a eu un petit temps du technique, dont je m'excuse d'ailleurs auprès de vous tout d'abord, auprès de nos téléspectateurs. nous devons rendre l'antenne. Comme tout à l'heure, Jean Dumur le disait au début de cette émission, vous êtes certainement l'un des invités de En Direct Avec, qui est le plus connu de nos téléspectateurs. Cependant, je suis persuadé que cette émission leur aura permis de découvrir votre personnalité. Vous affirmez à juste titre que vous êtes un inconditionnel de la vérité. Eh bien, c'est peut-être votre vérité que nous avons découvert ce soir grâce à vous. Et je vous en remercie. Bonsoir.